Hello famille, bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va, ça va. Ça fait 2 semaines que j'ai sorti le dernier épisode et je sais pas pourquoi cette fois-ci ça me donne l'impression que c'était il y a vraiment une éternité. Alors si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, je vous invite vivement à le faire. Le lien pour s'abonner au compte Instagram sera disponible dans la description de cet épisode. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé une mini-série sur la souffrance. Parce que comme on l'avait déjà vu, la problématique, en tout cas l'une des problématiques majeures du livre d'Habacouc, c'est comment est-ce que Dieu peut être indifférent à la souffrance. Et après avoir étudié en fait les 3 chapitres du livre d'Habacouc, j'ai trouvé ça super pertinent de faire une mini-série qui aborderait le thème de la souffrance. Voilà. Et je me suis dit qu'on allait faire une mini-série qui répondrait à la question: la souffrance peut-elle avoir un sens? Ou la souffrance a-t-elle un sens? Ça dépend de comment est-ce qu'on veut dire la question. Mais en tout cas, chaque semaine, en fait, je poste des extraits vidéo. Voilà, qui essaye plus ou moins de répondre à cette question. Et chaque 2 semaines, lundi, 20h, voilà, épisode Soul for Soul, avec 60% de l'épisode, du coup, qui est le contenu audio des vidéos que j'ai pris le temps de poster pendant la semaine. Et vu que les vidéos, c'est comme des vidéos relativement courtes, donc des 3 minutes, 2 minutes, c'est comme des vidéos qui sont coupées. Monter, modifier, alors que là en fait dans l'épisode audio vous aurez du coup toute la discussion pas coupée et a priori pas modifiée, donc vous aurez vraiment toute la conversation d'une traite. Et là je profite avant de vous laisser avec notre premier épisode pour faire une petite introduction, parce que si vous ne nous suivez pas encore sur Instagram, ça veut dire que vous n'avez pas vu mon petit réel introductif. Voilà. Et en fait, dans ce réel introductif, j'expliquais que pour moi, la souffrance, c'est une expérience universelle. Parce que tôt ou tard, on finit tous, et on a tous déjà fait au moins une fois dans notre vie, l'expérience, aussi désagréable soit-elle, de la souffrance. Et en fait, face à cette souffrance, on voit que Dieu réagit. C'est ce qu'on a vu dans Habacouc. C'est ce qu'on a vu dans Habacouc chapitre 1. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une situation qui vous dérange plus ou moins, vous avez la possibilité et quelque part la légitimité d'interroger Dieu sur le pourquoi est-ce que ça se passe comme ça actuellement en fait. Sur le pourquoi est-ce que c'est comme ça actuellement. Parce que Dieu réagit à votre souffrance. La souffrance est un scandale. Donc Dieu ne vous voit pas souffrir et s'en réjouit. Vous voyez, Dieu, c'est un Père aimant. Il vous aime, il a des projets de bonheur et non de malheur pour chacun d'entre nous. Et c'est pour cela que lorsque l'on souffre, quelque part, il souffre avec nous. Il souffre aussi de nos maux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc Dieu n'est absolument pas indifférent à la souffrance. Ensuite, l'on peut se dire, parce que ça c'était un peu ce que... La deuxième grande partie de la bande-annonce, c'était qu'on peut se dire que ça ne sert à rien d'être juste et croyant. Parce que si on lit le livre de Job, du coup Job, on connaît son histoire, il a souffert alors qu'il était juste et croyant. Job, il a connu des moments de doute, il a connu des moments où il s'est dit « Mais pourquoi est-ce que je suis en train de souffrir, entre très gros guillemets, pour rien ?» Parce que finalement, on se rend compte que le fait d'être juste et croyant ne nous empêche pas de souffrir en soi. C'est-à-dire que Jésus est quand même mort sur la croix, quoi. Job a quand même souffert de tous ses malheurs. Et si on peut prendre n'importe quel personnage de la Bible, ils ont tous, de manière totalement différente, souffert, en fait. Mais finalement, pratiquement, on va dire, pour ne pas dire tous les personnages de la Bible, ont souffert d'une manière... pour que l'on puisse tous s'y retrouver de près ou de loin, même 2000 ans après, c'est incroyable. Et enfin, il faut savoir que du coup, la souffrance a une origine. Voilà, la souffrance, elle est rentrée dans ce monde par le péché originel. Donc Adam, Ève, le serpent, la pomme. Je pense que tout le monde connaît maintenant l'histoire. qu'on soit croyant ou pas, en général, on connaît tous un peu cette histoire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, le chapitre, enfin, la référence biblique pour ce point-là, c'est Genèse 3. Voilà, le livre de la Genèse au chapitre 3, qui raconte un peu tout ça. Comment est-ce que le péché est entré dans le monde, la souffrance est rentrée dans le monde. Et hier, je suis allée à la messe, parce que c'était dimanche, c'était la fête de l'Immaculée Conception. Voilà, donc c'est une fête chez les catholiques, on commémore le fait que la Vierge Marie a été conçue sans aucun péché. Et il faut savoir qu'actuellement, on est pendant le temps de l'Avent. Voilà, on est pendant le temps de l'Avent, qui est un temps pendant lequel on se prépare enfin, à la venue de Jésus qui va naître du coup le 25 décembre. Et en général, les dimanches de l'Avent priment sur les fêtes qui sont célébrées pendant ce temps-là. C'est-à-dire que par exemple, l'Immaculée Conception, elle est tombée un dimanche, mais elle n'est pas censée être célébrée le dimanche parce que c'est un dimanche de l'Avent. Je ne sais pas si vous voyez, on la célèbre le lendemain, donc le lundi aujourd'hui. Et là, hier, je vais à la messe, et je ne sais pas pourquoi, ils font la messe de l'Immaculée Conception. Donc, ils font la messe de l'Immaculée Conception, et parmi les textes, la première lecture, c'était Genèse 3, et le prêtre a fait toute son homélie sur Genèse 3. Et en fait, il a tellement bien parlé, parce que je venais du coup vous parler de cette histoire de Genèse 3, mais il a tellement bien parlé et il a tellement dit ce qu'il y avait à dire que je me suis dit, mais non, je vais pas parler, je vais juste vous laisser écouter les propos de l'évêque en fait. Parce que oui, maintenant que je fais des podcasts, j'ai un réflexe très rapide d'enregistrement audio lorsque je pense que ça peut m'être utile pour plus tard. Donc voilà. Voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que là, je vais me taire. Je vais me taire. Vous allez écouter notre épisode 1 qui répond, essaye de répondre à la question qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est-à-dire, c'est vraiment la question sur laquelle on a essayé de discuter tout au long de ce premier épisode de la mini-série sur la souffrance. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et du coup, là, je vous laisserai avec le contenu audio. Voilà, je vous laisse avec ça. Et ensuite, après ce contenu audio, il y aura une petite pause de quelques secondes et ça s'enchaînera sur les propos du prêtre concernant Genèse 3, nous et la souffrance. Donc voilà, j'espère que vous allez aimer. On se retrouve a priori dans 2 semaines pour le prochain épisode audio qui sera disponible sur Apple Podcast, Spotify, RSS, notre super site pour un super podcast, mais aussi maintenant sur Deezer. Voilà. Donc, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une excellente écoute, une excellente semaine. Et n'oubliez pas de commencer à nous suivre sur Instagram parce que il y a des choses très intéressantes qui s'y passent. Voilà. Que Dieu vous bénisse et bonne écoute.
Bon, dans 3 secondes, on va dire hello.
Hello famille!
Aujourd'hui, on se retrouve pour le premier épisode de la mini-série sur la souffrance, dont je vous ai déjà fait la petite vidéo introductive et le petit sondage que j'ai fait auprès de mes copines, où elles ont essayé de dire est-ce que pour elles la souffrance a-t-elle un sens. Et en fait, dans cette mini-série, dans chaque épisode, on va vraiment essayer de décortiquer cette question qui est quand même assez large. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes avec Loïc Ivan, pour essayer de décortiquer la question qui est qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Parce que quand tu souffres et que tu te retrouves dans une situation où c'est vraiment, c'est vraiment la merde en fait, tu as tendance à te dire mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça en fait? Tu finis par te poser la question parce que
Pourquoi en fait?
pourquoi en fait? Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et puis en général, quand tu souffres, tu vois, tout le monde est heureux autour de toi. Personne n'a de problème, j'ai l'impression que personne ne va te comprendre et tout. Et du coup, je te dis, mais pourquoi? Et du coup, voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On va essayer de voir comment est-ce que la Bible nous aide. On va essayer de faire des petits partages d'expériences. Donc, Luc Ivan, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le sujet pour commencer?
Ça m'a déjà arrivé de souffrir, mais quand je me
Ouais.
demande pourquoi moi?
Tu t'es jamais posé la question? Moi, je me suis posé la question, genre, vraiment, plein de fois. Dis-toi, par exemple, l'année passée, quand j'étais à la fac et que ça chauffait vraiment, j'étais là. Et je me disais, et je voyais que c'était facile pour les autres en fait. Parce que ça chauffait sur moi, mais ça chauffait pas sur les autres.
Ouais.
Du coup, je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Enfin, qu'est-ce que je ne fais pas plutôt que eux ils font et qui fait que genre c'est toujours pas facile pour moi.
Ça c'est vrai.
Et du coup, tu te dis, mais pourquoi en fait? Parce que là tu travailles mais ça sort pas.
Et d'un autre côté, je me disais que comme là où je souffrais, peut-être que tout le monde se cachait aussi. Tout le monde avait sa souffrance de son côté. Je m'étais tout le temps dit, bon, je suis pas le seul, je souffre, mais il y a d'autres aussi. Peut-être qu'ils le montrent pas, mais ils souffrent quelque part, ils ont des défis quelque part. Et je sais que, comme c'était notre première année à tous dans les études, je savais qu'il y avait plein d'autres, comme moi, qui ne réussissaient pas forcément dans les études. Donc, d'une certaine manière, ça me réconfortait. Enfin, j'étais pas content parce qu'ils réussissaient pas ou qu'ils étaient en difficulté.
Oui, mais je me sentais moins seul.
Voilà, je me sentais moins seul, donc ça me rassurait un peu.
Ah, c'est ça. Parce que moi, j'étais là, et je me disais, mais attends, mais faux. Et puis, en fait, tu comprends vraiment pas. Et en fait, le truc, c'est que dans l'Ancien Testament, il y a vraiment cette idée de tu payes pour les péchés de tes parents, tu vois. Mmh. C'est-à-dire que si tes parents ont fauté, on va dire, on va vous maudire jusqu'à la 7e génération de je sais pas trop quoi. Genre, en mode, ta descendance va payer pour tes péchés, en fait.
Mmh.
Et le truc, c'est que, tu vois, par exemple, dans le livre de Job, on le connaît maintenant, c'est le gars, c'est le gars, il a souffert. Il a pas... Quand tu dis que quelqu'un qui a souffert là, tu
dis pas, il y a pas pire que Job.
Il y a pas pire que Job en fait. Mm. Et du coup, le mec, il a vraiment souffert. Et quand il cherchait à comprendre en fait ce qu'il avait fait pour mériter ça et pourquoi il souffrait, parce qu'en fait, la constitution du livre de Job, c'est quoi? On te présente Job, c'est un gars, il est prospère, il est heureux, il a l'argent, il croit au Dieu.
Il a tout ce qu'il veut.
Tout ce qu'il veut. Enfin, en tout cas, il est bien.
Il est
bien. Ensuite, maintenant, le diable va venir, et puis, le diable ou le Satan ou l'accusateur, ça dépend des versions, il va dire à Dieu, ouais, tu vois, ton fils Job, tu penses qu'il est trop juste, là. Voilà, en fait, il est juste parce que tu lui donnes tout ce qu'il veut. Mais s'il n'avait rien, s'il souffrait, tiens, moi, tu vas te laisser. Non, tu vas dire, ok, on verra rien.
On va lui retirer tout ça, voilà. et voir comment il se comporte.
Et du coup, quand les choses vont commencer à aller de plus en plus mal, Job va être avec ses amis. Je crois deux ou trois amis, et genre, pendant une grosse partie du livre de Job, en tout cas, ils vont essayer de décortiquer pourquoi est-ce que. Parce que ses amis vont lui dire, oh, tu as fait quelque chose pour mériter ça en fait. Qu'est-ce que tu mérites? Il va être en mode, mais j'ai rien fait, et tout. Est-ce que c'était grand pour eux qui ont fait le truc? Il va essayer de trouver une raison. Et souvent, il y a des cas où on a fait quelque chose, où on subit les conséquences de nos actions, et il y a des fois. Ou pour le coup, on a vraiment rien fait.
La plupart du temps, c'est parce qu'on est. Ce sont les conséquences de nos actes.
Oui, c'est les conséquences de nos actes. Souvent, c'est parce que tu as fait un péché, ou bien que tu as fauté, ou bien en tout cas que tu as fait un truc que tu n'aurais éventuellement pas dû faire. Et en fait, ce qui va en découler, ça va être la souffrance que tu vas subir. Parce que,
Parce que tout se paye.
Tout se paye ici.
C'est une forme de karma.
C'est une forme de karma, si on peut dire ça comme ça. Tu fais quelque chose, bon. Voilà, mais il y a des fois où en fait c'est juste des attaques du diable pour te faire lâcher Dieu. Pour te déstabiliser en fait. Il y a des fois où c'est vraiment juste des attaques du diable. Et ensuite, dans l'évangile, alors la ref, c'est Jean chapitre 9, les versets 1 à 7. Donc je vous lis. Jésus vit en passant un aveugle de naissance. Maître, lui demandèrent ses disciples, est-ce que cet homme a péché ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle. Jésus répondit, « Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. » Donc, est-ce que vous voyez un peu le topo? Maintenant, si je dois aller un peu plus loin dans la lecture, Jésus va continuer, il dit, « Il faut, tandis qu'il est jour, que je fasse les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. » Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Ayant ainsi parlé, il cracha à terre, fit de la boue avec sa salive, puis il l'étendit sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va, lave-toi dans la piscine de Siloé. Il partit, se lava et s'en retourna en voyant clair. Donc voilà. Donc point numéro 1, souvent tu n'as rien fait, c'est vraiment pour la gloire des yeux. Et des fois en fait, tu subis des choses, certes, mais c'est un peu pour que la gloire de Dieu puisse se manifester, tu vois.
On dirait que c'était nécessaire.
C'est un peu un mal nécessaire. Parce que Seth, il a souffert de ça, mais le jour de sa délivrance est arrivé.
Oui.
Et c'était un témoignage pour d'autres personnes, tu vois, pour expliquer.
Ce qu'on retient, c'est qu'il fallait qu'il passe par là.
En fait, c'est ça.
Pour que la volonté de Dieu s'accomplisse.
Ouais.
Donc c'était une souffrance nécessaire.
Et puis je me dis, genre, c'est une souffrance nécessaire aussi parce que c'est une souffrance qui te, au-delà de permettre de genre montrer la gloire de Dieu, ça te permet aussi de croire. Genre, c'est vraiment ce qui te permet de croire. Mmh. C'est comme avec, comme tu disais tout à l'heure, avec Job, quand il a fini d'avoir tous ses malheurs et tout, il a dit que ouais, son oreille avait entendu parler de Dieu, mais maintenant son œil l'a vu.
Mais il avait continué à avoir la foi, mais il n'avait pas hésité un moment.
Si, il hésitait un moment. Parce qu'au début, il était toujours dans sa foi, hein, mais un moment, il s'est dit, mais attends.
Pourquoi moi?
Pourquoi moi, en fait? Tout ça. Je me dis, parfois, genre, c'est juste.
Ta foi à l'épreuve.
Ta foi. Ouais, c'est ça, ta foi à l'épreuve. C'est là que tu te rends compte que la souffrance fait réfléchir, et c'est ce qu'on va aborder dans, dans le prochain épisode de la mini-série. Et ensuite, point numéro 2. Je pense que des fois, il faut être un peu. Je sais pas, je dois dire collaboratif. Genre. En mode,
tu souffres, mais tu dois accepter.
Ouais. Dans le sens où, si tu ne fais rien pour aller mieux et que tu restes dans ta douleur, forcément, ça ne va pas aller mieux.
Mais,
tu
vois, mais la veuve, par exemple, il n'a rien fait.
Si, il s'est levé, il n'a pas dit se laver, tout ça, pour que ça aille mieux.
Bah, bon, ok. Si c'est une forme d'action, de collaboration.
Moi, je considère que c'est une forme d'action. Parce que quand...
Ah, s'il était juste resté là, ne rien
faire. Tu vois, s'il était juste resté là, ne rien faire. En fait, quand t'as boue à ça, mais regardez la vue. Là, tu vois, c'est genre ce que je veux dire. Tu vois ce que je veux dire.
Oui.
Je me dis que peut-être c'est aussi ça.
On va parler du système de récompense aussi. Enfin, que les gens pensent.
Ouais. En fait, il y a des gens qui pensent qu'il y a un système de récompense. Dans le sens où...
Plus tu souffres, plus grande sera la récompense.
Plus grande sera la récompense. Bon. Toi, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que... Enfin, comme on l'a dit précédemment, et d'après les différentes paroles, on ne souffre pas pour rien. Que c'est dans le plan de Dieu, que c'est une souffrance nécessaire. Donc, on pourrait se dire qu'on souffre, mais au bout du tunnel, on n'aura pas souffert pour rien.
Ouais.
Donc, c'est dans ce sens où je peux comprendre que les gens pensent que plus ils souffrent, plus grande sera la récompense. Et toi, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, je pense que ça blague un peu les gens. Parce que tu vois, il y a des personnes qui vont se dire que ouais, parce qu'elles sont chrétiennes, elles vont plus souffrir, tu vois. Ou bien elles vont souffrir moins que les autres.
Moi, je trouve que c'est justement en étant chrétien qu'on souffre plus.
Bah, justement, c'est ça. Et il y a des gens qui ne veulent pas accepter ça parce qu'ils se disent « Oh, tu es censé avoir Jésus, tu es censé avoir Dieu, tu es censé... » Genre, comment ça se fait qu'une personne athée qui ne croit pas souffre moins qu'une personne chrétienne? Je sais pas si tu vois. Il y a des gens qui se posent vraiment la question, et moi je comprends parce que c'est légitime. Si tu dis à quelqu'un « Ouais, suis Jésus parce qu'il a eu le chemin, la vérité, la vie, etc. » Et tu sais que c'est vrai, tu vois. Tu sais que ce que... En tout cas, tu crois en ta vérité. Mm-hmm. Et tu sais que ce que tu dis, c'est vraiment des paroles de foi, etc. Mais comment tu peux convaincre quelqu'un de venir te rejoindre en lui disant « Si tu viens à toi, souffrir. Si tu viens... » Si tu viens à la suite de Jésus, tu vas porter de cette croix-là. Mais donc, t'inquiète, tu fais ça si tu vois.
Et donc quoi, on leur montre le côté joli, le côté positif.
Justement, en fait, le truc, c'est que au final, la souffrance, c'est une expérience un peu universelle, tu vois.
Enfin, personnelle, je dirais.
Moi, je dis universelle parce que tout le monde fait l'expérience de la souffrance.
Oui, mais chacun souffre différemment.
Chacun souffre différemment, mais tout le monde souffre.
Ok.
Donc pour moi, c'est vraiment une expérience que tu, quelle que soit ta religion, en fait,
que tu sois athée ou pas,
tu vas souffrir dans tous les cas. Mais le fait d'avoir Jésus va te permettre
de surpasser cette
de souffrance. Surpasser l'épreuve pour en tirer vraiment ce qu'il y a de plus positif possible.
Mmh.
C'est pas que je pense que quand tu n'as pas Dieu, tu peux pas en tirer du positif. Mais je pense que le positif que tu vas tirer de la souffrance lorsque tu es avec Jésus est plus poussé que quand tu te reposes sur tes propres forces. Sachant que, bon, on en parlera dans la suite, mais on verra que la souffrance va vraiment te confronter très souvent à tes limites, en fait. Tu vas être confronté à tes limites, tu vas te rendre compte que tu peux pas tout contrôler, que, enfin...
Des fois, faut juste laisser couler.
Voilà, enfin, c'est
juste
ça.
Accepter la situation.
C'est ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la souffrance du Christ... Jésus a vraiment souffert pour nous. Et en soi, si on réfléchit bien, Jésus n'avait rien fait pour mériter ça. Mais il a quand même souffert pour que toi, moi et nous soyons sauvés. Donc, soyons sauvés, en fait. Donc, voilà. C'est, donc là, si je peux développer ça, je donnerai comme ref 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 24, qui dit « Lui qui n'a point commis de péché, a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par ses meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Donc, c'est-à-dire, Jésus a souffert sans avoir péché, en fait. Il a pris sur lui les fautes de l'humanité. Il a pris sur lui les fautes de tout le monde et il a fait un sacrifice plus que suffisant pour que même 2000 ans après, nous soyons tous sauvés. Donc voilà. Voilà. Des fois, on n'a vraiment rien fait pour mériter ça. On n'a vraiment rien fait. Mais le plus important, c'est de se rappeler que un jour, on verra la lumière au bout du tunnel et qu'aucune souffrance n'est éternelle si on sait comment bien les prendre. Donc, pour pouvoir savoir comment bien les prendre, se recentrer et bien réfléchir, moi, je vous invite à continuer d'écouter le podcast. Voilà, parce que ça arrive. Et si vous avez des avis à partager ou si vous avez des conseils à donner pour améliorer le contenu, bah, je vous attends. Et puis voilà, vous faites plein de gros bisous. Voilà, allez.
Nous achetons par la suite à la relation plus longue pour que nous soyons plus saints, immaculés, devant lui, devant Dieu, dans la mort. Voilà, ça c'est notre question, c'est ce à quoi nous sommes destinés, et on comprend ça en cas de magie. Donc nous sommes des voies de saints. Je sais que parmi vous, il y en a pas mal qui désirent la sainteté. Mais vous avez remarqué que quand on se décide pour avancer sur le chemin de la sainteté, on fait l'expérience, on chute, l'expérience, on retombe dans le péché. Et le danger fait que parfois, on peut se décourager et renoncer à la sainteté. Alors, je crois que pour essayer de ne pas se décourager, c'est important de mieux comprendre qui nous sommes. Qui nous sommes, il faut relier le livre de la Genèse. Vous avez entendu la première reprise, un passage du chapitre 3 du livre de la Genèse. Et c'est un livre qui ne dit pas simplement ce qui s'est passé au début de l'humanité, mais c'est un livre qui nous parle d'aujourd'hui, de qui nous sommes. Alors on va revenir sur ce passage. Nous sommes après la chute du péché originel, vous savez, la tempête. et il y a cette tentation d'instrumentaliser l'autre, en voyant le corps de l'autre. J'oublie qu'il y a une personne, il y a une risque de voir un objet désirable dont je vais me servir pour ma propre jouissance. Alors, à cause de ce regard faussé, la pudeur devient nécessaire et le transfert n'est pas le même. Mais je suis dit, ça concerne aussi la relation à Dieu. Avant le péché, il n'y a pas de problème. Dieu peut me regarder tel que je suis. Je n'ai rien à cacher. Après la chute, Adam se cache. Pourquoi? Il sait très bien qu'il a désolé, qu'il a péché, mais il n'assume pas ce qu'il a fait. Alors il va tomber dans une auto-justification. C'est pas ma faute, c'est la faute d'Ève. Et Ève a fait pareil. C'est pas ma faute, c'est la faute de Satan. Et il se cache. Et non, le fait très bien de réaliser comme de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Ça veut dire qu'il faut jamais oublier que lui aussi notre cœur est blessé. Bien sûr, il y a un désir de sainteté, mais notre cœur est blessé. Et dans notre relation les uns avec les autres, il faut être attentif. Parce que nous aussi, nous pouvons tomber dans cette tentation d'instrumentaliser l'autre, de le mettre à mon service. Je m'intéresse à toi, quand tu es utile. C'est ce qu'on appelle des réflexes. Mais ça touche aussi notre relation à Dieu. Notre relation à Dieu aussi est blessée. Et vous voyez, elle est comme en mille balances. À la fois, nous entendons sa voix, comme Adam. Ça veut dire, nous sentons bien que Dieu nous attire à lui. Nous sentons bien que, sans lui, notre vie n'a pas de sens. Mais parallèlement, ayant une peur que Dieu nous regarde, et nous jouons à cache-cache. Nous n'avons pas compris que le regard de Dieu n'a rien à voir avec le risque. Que si Dieu nous regarde, c'est pas pour nous juger, pour nous condamner, pour nous punir. C'est pour nous pardonner. C'est pour nous restaurer. C'est pour nous sauver. Dieu nous cherche pour nous faire miséricorde. Où es-tu, Dieu? Dieu te cherche. N'aie pas peur de regarder Dieu. N'aie pas peur de le laisser s'approcher de toi. À ces mots qui disent ce soir, chacun a ressenti son cœur. Pouvez, en toute sincérité, dire à Dieu, avec Seigneur, j'accepte que tu regardes ma vie, comme elle est, même mes zones d'ombre, même ce dont je ne suis pas fier, j'accepte que tu poses ton regard sur moi. Et ça serait encore plus beau si ce soir, chacun d'entre nous, on décidait d'aller recevoir le sacrement du pardon avant Noël, pour vraiment faire cette expérience de miséricorde de Dieu. En fait, Dieu veut nous restaurer. Vous avez vu Notre-Dame, la cathédrale Notre-Dame, il y a 5 ans, la flèche tombée, transpercée la voûte, la nef est devenue un champ de lumière. Aujourd'hui, la cathédrale est une belle cathédrale. C'est un signe de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et c'est peut-être aussi un signe d'un renouveau spirituel en France. Vous savez, la France, depuis quelques dizaines d'années, s'est massivement éloignée du Christ. Aujourd'hui, il y a un libéralisme. Il emballement de la consommation. Nous avons tombé dans une impasse. Pas terrible pour moi. Mais aujourd'hui, beaucoup cherchent à sortir la tête de l'eau. Beaucoup chacun se trouve de plus. Nous assistons à une sorte de réalisation spirituelle. Il est temps de sortir de notre sommeil. Il est temps de quitter les ténèbres et l'ombre de la mort. Et de vivre dans la lumière. Voyez, chers jeunes, votre con, votre vocation, ce n'est pas simplement d'éviter le péché. C'est la sainteté. C'est de porter la lumière au monde. C'est de témoigner de notre vocation à l'amour. À l'amour frère. À l'amour éternel. Vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui galèrent. Galèrent matérielle, combien de temps dans les rues, en ce moment, à Lyon. Galèrent affective, morale, spirituelle. N'ayez pas peur de vous approcher d'eux. Regroupez-vous, priez ensemble, prenez des initiatives, allez à rencontre des pauvres. Soyez un reflet de la bonté et de la charité de Dieu. Aujourd'hui, je vois une génération de jeunes chrétiens qui se lèvent, qui sortent de l'ombre. Je vois une génération qui ose témoigner de l'amour de Dieu, en parole et en actes. Non pas avec un cœur de concurrent, avec un cœur de pauvre. Une génération qui lève les yeux vers Marie, à toute pure, qui apprend d'elle à se laisser guider par l'Esprit Saint. Dieu te cherche.